à ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios.
La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volémie et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec dans la tête. Prends mon tâche dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Bonsoir. Bonsoir. Ah ben bonsoir.
Mais bonsoir, mais oui,
bonsoir,
mon micro
on
marche sûrement, mais c'est mon casque
Radio
qui Canu, marche.
Il n'y a plus de pendule. Enfin, si, il y a une pendule qui a été réinstallée dans le studio qui indique il est probablement 19h09 ou 8.
Allez, 19h09, c'est l'ordinateur.
Le Canu du vendredi 6 octobre 2023. De quoi va-t-on parler?
Eh bien, alors, on va commencer au local. Attention, il ne faut pas se faire avoir. Sur le papier, il y a marqué qu'on parle que de la grève de la Poste, mais on va aussi parler de la préfète du Rhône, qui certes, des fois, elle est en PLS, mais surtout, on la déteste. Et tout le monde déteste la préfète.
Et puis, bah, au niveau national, on parlera du droit au chiffrement de ses communications et à la vie privée.
Et puis, on vous parlera de Covid, puisque l'État a été condamné à indemniser des plaignants qui dénonçaient le manque de masques.
Et après monmaster.com, eh bien, nous avons France Travail gratuit, et ça, c'est tout pourri.
Et puis, on vous parlera beaucoup d'écologie ce soir, mais pas de nucléaire. Mais en revanche, on parlera de Mayotte qui a de l'eau bah, une fois de temps en temps, et surtout quand on est pauvre, je crois.
Absolument, et de l'eau, il n'y en a pas à Mayotte, il n'y en a pas non plus dans les prisons en métropole, et notamment dans la prison pour femmes de Rennes.
Et si on a le temps, on verra que les JO, bah, c'est pas pour tout de suite que ça se passe bien, parce que la Seine est trop polluée.
Et toujours dans l'eau, il y a quand même une bonne nouvelle ce soir, profitons-en. Ah non, il y a la mise en examen de Sarko, on prend ce qu'il y a à prendre, ça fait toujours rigoler. Mais il y a surtout la justice qui a annulé la construction de méga-bassines.
Absolument.
Et alors à l'international, qu'est-ce qu'on fera? Eh ben, on verra que d'abord qu'il y a un squad qui a été expulsé à Leipzig et que ça a été suivi de pas mal d'émeutes.
Et puis on vous parlera d'animaux, puisqu'on reparle de flotte. Les poissons gèrent mieux les mouvements de foule que les humains. Incroyable.
Et peut-être que ça, c'est une bonne nouvelle.
On finira par l'agenda. On a une personne qui est venue directement à la radio pour nous donner quelque chose pour l'agenda. Et bien sûr, il y a le ACAB. Vous pouvez appeler la radio au 04 78 39 18 15.
Et ben voilà, c'est ça.
Formidable.
On est parti.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus...
Nous agissons avec smart. La volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, on chante en résine.
Et oui, et oui, et oui, déjà vendredi prochain, 13 octobre, c'est la grève générale. Ouais, la grève générale vendredi prochain, mais il y avait déjà une grève ce jeudi. Et du coup, c'est bien. Voilà, bon, on s'en fout un petit peu de la grève dont je vais parler. C'est pas ouf ce que je raconte. Mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même plein de petits mouvements de grève qui existent à plein d'endroits. Et celle-ci, elle est un peu rigolote parce que c'était, bon, bah, déjà à Lyon. C'était un rassemblement de salariés et de retraités de la Poste jeudi dernier, du coup, qui avait lieu devant la Banque Postale. Pourquoi les salariés de la Banque Postale étaient en grève, figurez-vous? Eh ben, pas contre un plan de licenciement, contre un truc hyper horrible, nanana. C'était juste contre, la suppression de plusieurs acquis sociaux et surtout pour demander, plus d'argent. Et qu'est-ce que c'était ces acquis sociaux? C'est pas ouf. C'est juste en fait que ils ont supprimé la rémunération du compte courant des retraités. En fait, quand tu travailles à la Poste, ton compte courant il est rémunéré comme si t'avais un livret. Hein. Et ça, du coup, ils ont supprimé. Du coup, il y a des gens qui ont bossé toute leur vie à la Poste et qui leur compte courant, jusque-là a été rémunéré. Bon, ça, moi, j'ai pas. Ça, il y a plein de gens qui n'ont pas. C'est pas grave. Mais la question, c'est de se dire en fait, il y a des petits acquis sociaux comme ça qui existent. Il y avait ça et il y avait ils payent pas de cotisation donc aussi si jamais les gens qui travaillent à la Poste ont leur compte bancaire à la Poste ils payent pas de cotisation. C'est pas ouf comme acquis social, c'est pas un truc de niqué, nanana. Et en plus, ah oui, c'est ça, je dis c'est rémunéré, mais en plus c'est rémunéré comme le livrage que la limite de 10 000 euros. Du coup, c'est pas,
ils se font pas de la thune à gogo sur le dos du client de la Poste.
C'est pas toi, tu payes tes cotisations sociales pour que les salariés de la Poste, c'est un espèce de petit avantage en nature tranquille comme ça quoi. Et alors ce qu'ils ont décidé du coup la Poste, c'est d'enlever cet acquis social là. Ils disent que ça leur coûte 300 millions d'euros au total, dans le même temps des 300 millions d'euros au total que ça leur coûte chaque année, ça pour tous les salariés, toutes les salariés de la Poste. La Poste est une énorme entreprise, c'est un truc de malade la taille du chiffre d'affaires de la Poste. 300 millions d'euros pour la Poste, c'est que dalle. Et ils ont dans le même temps décidé de augmenter le temps de travail. Alors, c'est le temps partiel aménagé, seigneur, on s'en fout, c'est-à-dire c'est les trucs de retraite anticipée quoi. Ça leur coûte parce que du coup ils augmentent l'âge de départ à la retraite, ils augmentent le temps où ils doivent payer en plus les gens, parce qu'en fait du coup comme les gens sont en temps partiel aménagé nanana, et comme il y a l'âge de la retraite qui est plus loin, et ça leur coûte ça à l'inverse 400 millions d'euros. Donc du coup plutôt que de, enfin voilà quoi, du coup ils préfèrent payer 400 millions d'euros pour que les gens partent plus tard à la retraite plutôt que donner juste 300 millions, enfin voilà, que juste donner 300 millions d'euros pour que les gens payent pas trop cher leur compte bancaire, ce qui est pas ouf non plus. Et disons qu'on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas s'ils vont gagner, s'ils vont pas gagner. En tout cas, l'important c'est de dire qu'il y a quand même encore des petites grèves qui existent un peu de partout, des petites grèves un peu locales. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire par ailleurs que figurez-vous pas, la préfète du Rhône. La préfète du Rhône est arrivée. Oui, c'est sans transition. On parle de la Poste, on parle de la préfète ensuite. Quoi,
c'est... Ça reste. Non, la Poste, c'est plus l'État.
Et oui. Bon, raté. La préfète du Rhône, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de détruire tout sur la question du logement, sur la question des subventions aux associations et compagnie, de faire n'importe quoi. Mais surtout, elle est en train de faire n'importe quoi au niveau du droit des étrangers et de l'accueil des personnes en situation, enfin, qui viennent pas de France et qui
si
arrivent.
Si je peux me permettre, elle fait pas n'importe quoi, elle fait carrière.
Elle fait carrière. Voilà, c'est une pote à Darmanin, elle était à Calais avant et compagnie. Bon, moi, qu'est-ce que je vais vous faire? Comme je vais pas trop bosser le truc, je vais vous lire le communiqué de la CIMADE. Alors, ce sont, bon, la CIMADE, voilà, bon, mais bon, quand même, la CIMADE. Depuis le printemps de... mais la CIMADE, vous savez, c'est ça.
Quand on a dit ça, on a tout dit.
C'est un truc, la CIMADE, c'est Centre œcuménique protestant, nanana, mais attends, ils font plein de trucs pour les personnes qui n'ont pas de papier, qui sont hyper bien, notamment une permanence et du soutien pour les personnes qui n'ont pas de papier, avec des juristes qui les aident à obtenir des papiers. Donc voilà. Depuis le printemps 2020, nous rencontrons des personnes désappointées, désemparées, voire désespérées. Ces personnes sont des usagers et usagères du service public de la préfecture, d'origine étrangère en lien avec les services de la direction de la migration et de l'intégration. Déjà le nom, on n'est pas bien quand même. Qui nous ont fait part de leurs plaintes et compréhension à propos du fonctionnement de vos services, faute d'avoir simplement pu obtenir une réponse à leurs questions. Ces plaintes émanent de personnes qui subissent une rupture dans leurs droits sociaux ou perdent leur travail car leur récépissé n'a pas été renouvelé dans les délais. Et oui, parce qu'en fait, ils font plus de rendez-vous, ils font plus de, il y a les rendez-vous, ils sont à un an et demi, donc ce qui fait que t'as un titre de séjour de un an, bah du coup tu perds ton travail, tu perds tout. Et en plus, comme ils font plus d'accueil sans rendez-vous, et ben tu peux plus aller si t'as juste une petite question, un petit truc comme ça, ou si juste t'avais pas quelqu'un qui t'accompagnait pour t'expliquer comment faire. Ces plaintes proviennent de personnes qui attendent depuis des mois, voire des années, un rendez-vous pour faire une demande ou renouveler leur titre de séjour. Ces plaintes sont formulées par des personnes qui trouvent porte close pour obtenir un renseignement ou qui sont confrontées au dédale kafkaïen de la dématérialisation. Et oui, bien sûr, parce que maintenant, du coup, en fait, la prise de rendez-vous se fait sur Internet. Tu peux plus aller quelque part pour prendre rendez-vous. C'est un merdier sans nom pour prendre un rendez-vous. Ne serait-ce que pour juste prendre un rendez-vous et après pour poser les dossiers, les machins, c'est encore pire. Ces plaintes sont exprimées aussi par des personnes qui ne comprennent pas que les droits reconnus par une juridiction ne soit pas mis en œuvre spontanément. C'est qu'en fait, il y a plein de titres. Je sais pas pourquoi je fais l'explication du truc, mais en gros, il y a plein t'as le droit à des choses.
C'est quand ce qu'on fait, ça s'appelle les informations finalement.
Voilà, t'as le droit à des titres de séjour. Quand t'as le droit à un titre de séjour, en fait, c'est pas que t'as le droit. En fait, t'as le demander. Même si tu l'as de droit, il faut que t'ailles le demander. Non. Du coup, en fait, en plus, si jamais une fois que t'as obtenu ton titre de séjour, bah, ça veut pas dire qu'il faut que t'ailles redemander en plus derrière ton accès aux soins et compagnie. Bon, bref. Cette litanie qui ne fait que s'étoffer pointe les graves dysfonctionnements du service étranger de la préfecture du Rhône. Ils impactent également les fonctionnaires et contractuels de service. Est-ce digne un service public dont la première mission est d'apporter une information claire et juste aux usagers ou aux usagères et une réponse à leurs demandes? Nous, usagers et usagères de la préfecture, travailleurs et travailleuses sociales, avocates, personnalités publiques au contact de la population, associations militantes, nous sommes les témoins de ce fonctionnement absurde où inégalité de traitement, le non-respect de la loi et précarité se renforcent et font système, rendant caduque le principe d'accueil et d'insertion des personnes étrangères. Nous qui déployons une énergie considérable au quotidien pour bien trop souvent remplir des missions qui incombent à l'État, nous ne pouvions recueillir en ces plaintes en restant silencieux. C'est vrai qu'ils évoquent après la mobilisation du 2 mai 2023, où il y a eu tout un tas de. Il y a eu une manif déjà pour demander un service à l'accès à un service public pour la préfecture. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses dans un collectif élargi et des soutiens d'origine, de sensibilités très diverses à partager ce constat et leurs revendications. Nous demandons un accès réellement simplifié aux services publics permettant d'informer, d'éclairer et d'aider les usagers et usagères dans leur démarche administrative. Nous demandons également que les dossiers déposés fassent l'objet d'un délai d'instruction raisonnable aboutissant systématiquement à une décision. Et parce que souvent, tu attends pendant des plombs pour qu'on te dise « Ah ben revenez dans 3 mois, on va refaire un récépissé pourri qui vous donne le droit à rien ». Voilà, du coup, c'est envoyé à Madame Bouget, pref@69gmail.com. Non, je déconne. Ça a été envoyé à la préfecture. Ça, c'est le mail de contact pour si jamais on veut les appeler. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, en fait, effectivement, cette préfète, elle a envoyé pour faire quoi? Pour décourager les gens de rester, pour empêcher les gens d'avoir des titres de séjour, pour empêcher les gens d'installer leur campement, pour installer les gens de squatter, pour empêcher les gens de faire tout ce qu'ils veulent. En fait, le but, c'est qu'ils restent ici. Enfin, c'est qu'ils partent d'ici, justement. Quoi qu'il en coûte et quelles que soient les conséquences sur leur santé mentale, sur leur santé physique, sur leurs enfants, sur tout ça, nanani, nanana. Donc, la préfète, t'inquiète, bouge pas, on arrive.
Canu Info.
Gendarmerie nationale, arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et dans la catégorie des gens dont la bêtise n'est pas de limite, il y a évidemment la DGSI et entre autres la PNAT, donc le parquet national antiterroriste. Du coup, on va vous parler de l'affaire du 8 décembre et du lien avec le chiffrement de ces communications et le droit à la vie privée. On vous en avait déjà un peu parlé, mais l'idée c'est, voilà, il y a le procès qui est en ce moment, il y a un suivi qui est assez chouette qui est fait, que vous pouvez trouver sur Rébellion, sur le blog de soutien qui est peut-être mis à jour un peu plus vite. Peu importe, en tout cas, c'est toujours pas mal de se rappeler un peu sur quoi on construit un dossier complètement vide. Pour ça, on va vous lire un communiqué de la Quadrature du Net qui avait fait auparavant un dossier nettement plus long, qu'on vous invite à aller regarder, évidemment. Le 3 octobre prochain, donc finalement c'est déjà passé, s'ouvrira le procès de l'affaire dite du 8 décembre. 7 personnes sont accusées d'association de malfaiteurs terroristes. Pour construire le récit du complot terroriste, les services de renseignement de la DGSI, chargés de l'enquête judiciaire, et le parquet national antiterroriste et le juge d'instruction instrumentalisent à charge le fait que les inculpés utilisaient au quotidien des outils pour protéger leur vie privée, chiffrer leur communication. Face à cette atteinte inédite que nous documentions longuement il y a quelques mois, le temps de ce procès va être crucial dans la bataille contre les velléités récurrentes de l'État de criminaliser des pratiques numériques banales, sécurisées et saines, pratiques que nous défendons depuis toujours. Comme le souligne Le Monde dans un long article, cette affaire repose sur des bases fragiles. Parmi celles-ci, nous sommes particulièrement inquiets de la place donnée à l'utilisation des outils de chiffrement ou plus largement des moyens de protéger sa vie privée. Un des enjeux de ce procès sera donc de savoir si telle pratique peut être utile à charge par la police et la justice pour étayer la présomption d'un projet terroriste. Un tel parti pris de la part du juge consisterait un passage de cap extrêmement dangereux, puisque toute forme de confidentialité deviendrait alors suspecte par défaut. Dans ce dossier, protéger sa vie privée et chiffrer ses communications n'est plus seulement suspect, mais devient constitutif d'un « entre guillemets comportement clandestin », un moyen de cacher un projet criminel. À travers ses notes, la DGSI s'est ainsi affairée à démontrer comment l'utilisation de Signal, Tor Proton, Silence, etc. serait la preuve d'une volonté de disséminer des éléments compromettants. En plus de cela, comme nous le dénoncions précédemment, la DGSI justifie l'absence de preuves d'un projet terroriste par l'utilisation d'outils de chiffrement. Les éléments prouvant une intention terroriste sont nécessairement, selon elle, ces fameux messages chiffrés et inaccessibles. Le serpent se mord la queue, ce qui amène les avocats d'un des inculpés à dénoncer le fait qu'ici, l'absence de preuves devient une preuve. Plus inquiétant encore, l'enquête de la DGSI est parsemée d'approximations, voire d'erreurs techniques, qui sont ensuite reprises par le PNAT, puis par le juge d'instruction. Ainsi, les enquêteurs confondent Tor et Tails dans certaines pièces du dossier. On va juste rappeler pour celles et ceux qui le sauraient moins, Tails c'est un système d'exploitation comme Windows, macOS et Ubuntu et Debian et ce que vous voulez, qui est très sécurisé, qui a priori protège au maximum votre vie privée, et Tor c'est simplement un navigateur internet, mais qui vous cache un peu mieux que la plupart que les autres navigateurs vous utiliserez habituellement. Le résultat de l'enquête pointe également comme élément de culpabilité le fait que les inculpés chiffrent le contenu de leur téléphone ou de leur ordinateur. On rappelle, les téléphones Apple, ils sont chiffrés par défaut, du coup, a priori, tous les utilisateurs de iPhone récents sont des terroristes en puissance.
Bien sûr, on peut rappeler que beaucoup d'entreprises privées et, par ailleurs, l'État encourage notamment un certain nombre de fonctionnaires à chiffrer leurs données pour se protéger.
Ouais. L'Europe même a dit aux parlementaires européens utiliser Signal pour communiquer et arrêter de faire ça par texto, bande de guignols. Je crois que c'est la citation exacte. Mais,
texto.
Voilà. Du coup, probablement, beaucoup de parlementaires à Bruxelles sont aussi en train de fomenter des projets terroristes. Ça semble une forme d'évidence. Toujours avec beaucoup de confusion technique, la DGSI reproche ainsi aux personnes en cause d'utiliser Lux, qui est un outil de chiffrement, pourtant banal et que tout le monde utilise au quotidien. Mais de manière générale, l'ensemble du dossier tend à démontrer que la police et la justice ignorent que le chiffrement par défaut des supports de stockage est mis en place par les principaux développeurs de logiciels. Ces mêmes autorités oublient que leurs périphériques sont aussi chiffrés, en tout cas nous l'espérons pour elles. En somme, il est reproché aux inculpés de respecter des règles élémentaires de sécurité informatique. Ce qui est parfois appelé hygiène informatique devient le symbole d'un prétendu comportement clandestin. Alors on vous laissera lire la suite sur le site de la Quadrature, mais c'est quand même toujours intéressant de constater comment l'État veut absolument toujours tout savoir, et que le moindre chiffrement du coup peut maintenant devenir une source d'inquiétude et finalement une preuve contre soi, parce que si vous dissimulez, vous avez forcément quelque chose à cacher. On revient un peu dans les mêmes, quand ils ont mis des boîtes noires derrière les box de tout le monde, vous pouvez dire, bah tiens, c'est pas parce qu'on a rien à cacher qu'on a envie que tout le monde lise tout. Il y a quand même une petite nuance entre tout ça, et que du coup le droit à la vie privée, ça reste un des droits fondamentaux qu'on devrait encore avoir, mais qui est de plus en plus difficile. Et par ailleurs, c'est l'occasion pour nous de vous encourager à chiffrer toutes vos communications, tous vos supports numériques, parce qu'en vrai la question est, d'une part, peut-être vous avez des trucs à cacher, peut-être pas, on s'en fout.
C'est pas vous qui décidez ce que vous avez à cacher en général.
Déjà, peut-être ce que vous n'avez pas à cacher aujourd'hui, vous aurez le caché demain. Et surtout, plus on sera nombreux et nombreuses à chiffrer nos communications, à créer de la masse, moins effectivement on pourra venir faire chier des gens qui auraient vraiment besoin d'être tranquilles.
Et pendant ce temps-là, l'État qui s'occupe de terroriser et de faire des affaires d'antiterrorisme à gogo, eh ben, est condamné par la justice administrative. Pourquoi ? Parce que l'État a été condamné par la justice comme en appel, comme responsable dans la constitution d'un stock de masques insuffisant avant l'épidémie de Covid-19. En fait, l'idée, c'est de dire ça, c'est de dire que l'État est responsable parce qu'il n'a pas préparé assez de masques et qu'il n'avait pas un stock suffisant. Et du coup, ça fait plein de soignants et de soignantes ou plein de personnes qui étaient plus vulnérables ont été contaminées. Et aussi dans la communication gouvernementale sur l'utilité de ce masque au début de l'épidémie. Il n'a pas été condamné, l'État, par contre, sur la question de la gestion de crise, sur la date du premier confinement, sur le dépistage, sur tout le reste. Mais par contre sur ça il a été condamné et ça va ouvrir la possibilité d'une indemnisation partielle pour certaines personnes qui étaient plus exposées au risque d'infection, notamment par leur profession. Donc pas tellement pour la question de leur profession, mais pas tellement pour la question de est-ce qu'elles étaient plus vulnérables plus exposées au risque, mais pas forcément plus vulnérables face au Covid-19. Voilà.
Et à titre de, comme le chiffrage, le masque, ça fonctionne pour le Covid-19. Alors le FFP2, ça fonctionne pour le Covid-19, contre les lacrymogènes et par ailleurs contre la surveillance algorithmique et la reconnaissance faciale.
Eh ben, de la reconnaissance, vous n'allez pas en avoir si vous êtes chômeur ou RSA, puisque du coup, la semaine dernière, il y a ce projet vraiment... je vais dire archi dégueulasse, mais je pense que je pense pire. On va pas aller jusque tout ça. Donc de France Travail, et du coup c'est le RSA qui est conditionné pour tous les gens donc qui le touchent, qui devront effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire. Alors ça c'est quand même un fantasme qui est porté par toute la droite depuis aussi longtemps que je parvienne à me rappeler, le fait que les gens au RSA, ils touchent quand même 450-500 balles par mois, et c'est quand même vraiment un tel luxe que quand même il faudrait qu'ils donnent quelque chose, et le fait que les gens aient le droit à survivre, par exemple, ne les touche pas vraiment. Donc ça rentre un peu dans la politique, parce qu'on sait que le taux de chômage, c'est vraiment c'est le kiff un peu des politicards, de se dire, oh là, le taux de chômage, s'il est bas, c'est super. Donc après avoir évincé tout un tas de gens du compte de chômeurs comme ça, d'un coup, alors que là, rien n'a changé dans le réel, dans le concret, on arrive à faire baisser le nombre de chômeurs, chômeuses en un claquement de doigts, et ça, c'est quand même vraiment extra, faut dire, c'est de la magie, quoi. Et donc, à l'horizon 2027, notre ami Macron, il a décidé qu'il fallait un taux de chômage à 5%, sachant que c'est 7,2 aujourd'hui. Donc, pour faire ça, il y a l'objectif du plein emploi, comme ils appellent ça, et avec France Travail qui va être une espèce de machine à broyer du précaire de ouf, on va tout regrouper ensemble. Et du coup, un des gros enjeux, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui touchent le RSA ou qui demanderont le RSA vont être automatiquement inscrites au chômage. Et on rappelle que enfin, pas inscrite au chômage, par exemple, parce que si jamais touchait le chômage, ça serait trop, mais inscrite à Pôle emploi, donc à France Travail, bref, on va pas se faire chier avec les appellations. Et du coup, se verront automatiquement déclarés comme cherchant de l'emploi, et c'est là où il y a le petit twist final qui est bien sympa. Quand on est chercheur d'emploi, on peut vachement plus facilement se faire radier que quand on est au RSA. Entre autres, il y a le truc de si vous refusez 3 offres à moins de 80 bornes de chez vous, j'ai plus tous les détails en tête.
D'activité, etc. Enfin, oui, c'est de plus en plus contraignant. Et les indemnisations sont aussi de plus en plus courtes.
N'est-ce pas ? Bon, pour le RSA, l'avantage, c'est qu'il n'y a encore pas de durée limite au RSA, mais par contre, du coup, comme effectivement, a priori, les allocataires du RSA se toucheraient la nouille à longueur de journée et que quand même, ça serait vraiment hyper, hyper, hyper grave, parce que 500 balles par allocataire, c'est quand même ouf, quoi, ce que ça nous coûte, ils ont décidé qu'il fallait bien les faire bosser gratos. Et alors ça, c'est la magie. Ça veut dire que maintenant, il y a 15 heures d'activité obligatoire pour les allocataires du RSA. Donc là où c'est encore plus malin, c'est comme tous les projets de loi, il est extrêmement flou, c'est-à-dire qu'il dit juste ça, il dit 15 heures d'activité obligatoire, mais on ne précise pas qu'est-ce que c'est une activité, par exemple, parce que il y a des tas de gens qui font des activités qui n'ont rien à voir avec le travail et qui sont tout à fait utiles, alors qu'il y a des tas de gens qui travaillent et qui font chier tout le monde. Donc on ne sait pas ce que ce sera, et ça pourrait être fait par décret. Donc en vrai, la loi a été votée évidemment par LR, Renaissance et compagnie, mais en plus, le gouvernement, après, par décret, il pourra faire passer des petits aménagements là comme ça bien sympas qui seront sans nul doute vraiment complètement dégueulasses. Donc, bah, ça y est, ils ont réussi leur rêve, finalement, d'obliger les gens RSA de bosser gratos. Et peut-être, nous, on peut aller un peu plus loin que ça, parce que ça, ils ne le disent pas dans le projet de loi, c'est étonnant, mais on peut quand même se rappeler que, bah oui, les allocations chômage ont été réduites en durée, réduites en quantité. Il y a une petite réforme des retraites, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, là, qui a glissé l'an dernier, il paraît que ça fait un petit peu de bruit. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, on vient non seulement forcer les gens au RSA à bosser gratos, mais ça s'inscrit quand même dans ce grand projet de précariser et en fait de créer des travailleurs qui vont être contraints de bosser pour le moins possible et effectivement le plus longtemps possible, et en vrai des gens qui sont corvéables, et les luttes sociales et les acquis sociaux, que ce soit les petits comptes bancaires de la Poste ou quoi que ce soit d'autre, on voit bien qu'on les piétine. Et en vrai, bah, c'est ça, si vous bossez pas, qu'on vous meurt ça, qu'on vous force à prendre des emplois, si vous les refusez, vous avez plus de moyens de subsistance, alors et bah, du coup vous allez faire du travail de merde. Et parallèlement, quand vous cherchez un emploi, vous pouvez aussi être inscrit à Pôle emploi et chercher un boulot. Un patron, quand on lui dira ah non mais si tu veux, pour rien, parce que c'est pas le patron qui a le payé le gonce qui est au RSA et qui va faire les 15 heures de taf, ben nous si tu veux on te file un type au RSA, c'est gratos, nous on lui file 500 balles par mois, c'est bien. Et à côté, les gens qui cherchent un emploi, effectivement, comment est-ce qu'ils pourront faire concurrence à une main d'œuvre gratuite qui va être mise de force sur ce qu'ils appellent le marché du travail,
qui vient s'additionner déjà à des dispositifs comme l'insertion, où on a déjà des personnes qui bossent pour pas très cher avec des subventions de l'État importantes. Par exemple, le Grand Lyon adore ça, hein, ça leur permet de se donner une image sociale en faisant bosser des gens pour des rémunérations de misère.
Voilà, alors ça c'est le projet de loi, c'est vraiment c'est de la merde, c'est vraiment dans la stricte continuité de la précarisation des pauvres, qui étaient déjà précaires, mais qui le seront encore plus. Toutefois, peut-être, est-ce qu'on peut trouver là-dedans, alors pas des raisons de se réjouir, mais des raisons de paniquer un peu moins fort, en particulier si vous touchez le RSA, c'est qu'ils sont tellement radins qu'en vrai, alors il y a des gens qui disaient, en gros, pour vérifier ce machin-là, ça coûterait 10 milliards par an, parce qu'en fait, il faut payer des gens pour vérifier, a priori, la vérification ne se fait pas toute seule, et que comme c'est des putains de radins, en gros, il y a 300 agents de Pôle emploi qui ont été rajoutés sur toute la France. Globalement, personne n'aura les moyens de faire appliquer ce truc-là. Il reste la question de la sous-traitance et de dire on va faire ça par des boîtes privées qui vont coûter moins cher que des agents publics, etc., etc. Malgré tout,
il y a des gens pour se nourrir avec ça, oui.
Voilà, encore aujourd'hui,
des vieux de droite comme pour le territoire zéro chômeur, pardon.
En tout cas, encore aujourd'hui, il semble quand même particulièrement difficile d'aller contrôler. Alors effectivement, après, le problème des trucs aléatoires, c'est que ça tombe un peu au pif et on peut se faire niquer quand même à la fin. Mais on peut peut-être aussi moins paniquer en se disant, avant qu'ils arrivent à vérifier tout ça, et puis on aura peut-être le temps de trouver des façons de justifier des activités d'ici qu'ils arrivent, eux, à se motiver à payer des gens pour faire leur sale boulot. Et on a perdu le jingle, c'est chiant.
Oh là là.
La censure, encore une fois.
Ah, en plus, c'était le jingle. Quoi, le jingle écologie.
Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule ! Yeah !
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Et oui, rubrique écologie, on va vous parler de Mayotte. Et Mayotte, c'est bien la cata aussi, une fois de plus, notamment dans les territoires loin de la métropole. Et bien, c'est encore pire qu'ici en termes de traitement des humains, puisque l'eau est coupée de jour sur trois dans une bonne partie de Mayotte. Et donc l'archipel de Mayotte subit en fait une sécheresse d'une ampleur inédite depuis 1997. Hein, donc ça, c'est le phénomène, on va dire, naturel, bien que très fortement lié au dérèglement climatique. Et les restrictions font monter la colère chez les habitants et habitantes qui sont privés d'eau, donc comme je le disais, deux jours sur trois. Alors que dans les semaines à venir, il est très probable que ces restrictions vont encore se durcir, que ça va être en réalité encore pire. Et donc il commence à y avoir quelques petites mobilisations, notamment le matin du 27 septembre, c'était la semaine dernière, un millier d'habitants et d'habitantes de Mamoudzou, donc qui est un chef-lieu de Mayotte, se sont réunis pour participer à une manifestation dans l'objectif d'interpeller les pouvoirs publics face à la crise de l'eau et de dénoncer notamment les critères discriminatoires relatifs à la distribution des 600 000 litres qui ont été livrés par l'État. Alors l'État, on en reparlera plus tard, c'est enorgueilli d'avoir livré 600 000 litres aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire à 51 000 personnes, si on compte bien, c'est 3 litres par tête pour une toute petite partie de la population de Mayotte. Donc c'est totalement ridicule, mais on a pris des photos avec le ministre à côté d'un pack d'eau, c'était génial. Depuis le 4 septembre, dans la plupart des quartiers de 17 communes de l'archipel, eh bien, ils sont plus alimentés en raison en fait, d'un manque de pression d'eau qui ne permet pas en fait, à l'eau d'arriver au bout des tuyaux. Il y a des coupures à peu près 2 jours sur 3. Et puis, bah, du coup, il y a des gens qui spéculent. Et donc, les packs de 6 bouteilles de flotte ont flambé avec des prix exorbitants. Ça se trouve aujourd'hui à Mayotte entre 5 et 10 euros un pack de 6 bouteilles d'eau. Si vous allez, y compris dans une supérette du centre-ville de Lyon, ça coûte entre 1 et 2,50 euros, on va dire, quoi, en fonction de la flotte que vous achetez. Et là, on parle quand même donc de prix 4, 5, voire 10 fois plus élevés que ce qu'on peut avoir en métropole, dans un département où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, on comprend bien que l'équation, elle marche pas très très bien, surtout sur un produit nécessaire comme l'eau. Et donc si l'Agence régionale de santé estime par ses analyses que la potabilité de l'eau est de 95%, 95% est conforme, les recommandations sont malgré tout partout dans l'archipel de faire bouillir l'eau par précaution, dit l'ARS. Et donc bah, forcément ça fait un peu flipper tout le monde et ça met encore plus de tension. Pendant la manifestation, on a notamment vu Racha Mouski-Dequin, qui est la coordinatrice du collectif Mayotte à Soif, qui montrait en fait une bouteille d'eau trouble issue du robinet. Il disait, quand l'eau est de couleur marron comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous allez la consommer, même bouillie? Une habitante de Mzou Asia, dans le sud de Grande Terre, la région la plus impactée par le manque d'eau, racontait notamment: boire, se laver, lager son linge, tout est compliqué, ce n'est plus vivable, on passe son temps à faire des stocks, en fait, les personnes passent beaucoup de temps à chercher de l'eau. Les magasins sont vite en rupture d'eau en bouteille et celles et ceux qui n'ont pas de salaire doivent boire de l'eau du robinet avec tous les risques pour la santé. Elle dit, les nerfs vont lâcher, c'est sûr. Donc 60% des Mahorais et des Mahoraises cultivent par ailleurs des terres. Donc là, il y a aussi une inquiétude hein, qui pourrait être une crise alimentaire qui suit une crise de l'eau, assez logiquement. Et le collectif Mayotte à Soif a lancé une pétition en faveur d'une action en justice pour exiger que la société mahoraise des eaux en fait, fournissent des bouteilles au nom du droit fondamental à l'accès à l'eau, ainsi que de gel des factures de cette flotte marron qui est considérée comme pourrie. Le 27 septembre, toujours, le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, s'est rendu sur un site de distribution d'eau, hein, c'est là dont je parlais tout à l'heure, les jolies photos, avec les PAC. Il s'est engagé à accélérer la construction d'usines de dessalement et assurer qu'il n'y aurait plus de rupture. Mais en fait, tout ça est totalement insuffisant, comme le nombre de bouteilles distribuées. Et le ministre assure en fait suivre également près de 35 millions d'euros de travaux d'urgence en cours pour effectuer 10 nouveaux forages et chercher des fuites qui seraient responsables de 35% des pertes d'eau sur le réseau. À Mayotte. Alors les fuites, c'est toujours très très important sur les réseaux. Hein. Dans une ville comme Lyon, ça doit être entre 10 et 25% de pertes. Donc c'est un peu plus, mais ça ne peut pas justifier l'intégralité du problème. Et puis il y a une troisième retenue collinaire qui va être créée. On va reparler de retenue collinaire juste après ou de dispositifs pas loin pour avoir de l'eau potable. Et donc cette usine de dessalement qui doit permettre de dessaler 10 000 mètres cubes qui doit ouvrir fin 2024. Donc c'est quand même dans un an, on voit que c'est tard. En attendant, le ministre reconnaît que les 6 à 8 semaines à venir, donc jusqu'en gros quasiment à la fin de l'année, en attendant la saison des pluies qui commence vraiment fin 2023, début 2024, vont être compliquées. Il y aura des restrictions encore plus sévères que 2 jours sur 3 sans eau potable quand même, qui vont arriver. Et donc Andrea Miagnolfi, qui a l'initiative du groupe L'eau à Mayotte, estime en effet qu'on se retrouve finalement face à une catastrophe naturelle, mais surtout face à une suite d'erreurs humaines. Tout le monde savait que ce qui pouvait se passer avec des alertes de la dernière crise qui datait de seulement il y a 6 ans, c'était en 2017, et à l'époque, l'île avait déjà vécu une grave pénurie d'eau pendant plusieurs mois. Mais bon, apparemment, personne n'apprend de ses erreurs.
Ouh, tout le monde s'en fout, ça dépend.
Ça dépend si c'est des pauvres qui meurent.
Et ben oui, on va continuer de vous parler d'eau, c'est un peu thématique ce soir, mais cette fois c'est avec une bonne nouvelle, alors ça c'est quand même plutôt chouette. On va vous parler de méga bassines. Alors bon, on vous a bassiné, n'est-ce pas, avec les méga bassines, merci. Longtemps, vous avez entendu parler de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, etc. Mais là, du coup, c'est quand même plutôt sympa, puisque c'est le tribunal administratif de Poitiers qui, mardi, a annulé 15 projets de méga-bassines répartis entre plusieurs départements, donc Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Du coup, pour les 9, il y avait 9 bassines qui étaient autorisées dans les sous-bassins de l'Aune et de la Couture. Là, on vous laissera utiliser Internet pour trouver où c'est. Et 6 autres qui étaient dans le bassin du Clain, et donc tout ça ont été retoqués par la justice avec 2 décisions distinctes, ce qui est plutôt sympa en vrai, parce que ça fait 2 entrées pour attaquer les prochaines, et ça c'est plutôt cool.
Deux jurisprudences,
exactement. Du coup, dans le premier cas, le juge considère que le projet n'est, je cite, pas associé à de réelles mesures d'économie d'eau, et ne tient pas en compte des effets prévisibles du changement climatique. Qui aurait pu prévoir le changement climatique ? Et bah, apparemment, le juge n'a pas été trop con, il a réussi à les prévoir, ce dont on bassine aussi depuis de nombreuses années. En fait, ça craint et on va tous crever. Donc concrètement, c'était 1,64 million de mètres cubes d'eau par an qui devait être retenu, sachant qu'il y avait déjà 5 millions qui étaient pécho par ailleurs. Et du coup, c'est beaucoup trop pour permettre la substitution qui est censée être leur raison d'être. En gros, l'idée, c'est que ça avait été imaginé pour des moments où il y avait de la flotte de partout à gogo, ce qui n'est plus du tout le cas. Et du coup, on ne peut plus faire semblant que quand on tape dans les nappes phréatiques, après ça revient parce qu'il y a des moments où il y a trop d'eau et tout ça. Bah, en fait, ce n'est plus le cas et ça ne marche plus. Du coup, le tribunal a considéré que bah, c'était de la quique et que en fait, les conditions actuelles et futures ne pouvaient pas rendre ça. Du coup, ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est le premier jugement aussi qui prend en compte les effets à venir, actuels et à venir du changement climatique. Et du coup, ça peut effectivement ouvrir une brèche et faire une jurisprudence sur dire oui, mais vos études qui ont été faites en 2003, en fait, on n'en a rien à pétave parce que vous avez complètement niqué la planète et du coup, il faut réussir à maintenant penser le monde en fonction de tout ça. Pour l'autre, en gros, le juge s'est fondé sur des études qui ont été faites sur d'autres méga-bassines. Donc là, il disait, oui, la méga-bassine, je ne me rappelle plus du chiffre, mais peut-être on s'en tape un peu, elle doit prélever 1,9 million de mètres cubes d'eau par an, gna gna gna. Et en vrai, la réalité, c'est que tous les cahiers des charges des méga-bassines, à chaque fois, en fait, ça en prélève au moins 10% de plus que ce qui est annoncé. Et du coup, ça faisait dépasser de la limite prélevable la méga-bassine. Donc le juge a dit, en vrai, vous dites que c'est ça. Moi, je vois bien que la réalité, c'est autrement. Donc, votre bassine, merci, mais non merci. Voilà, donc ça fait deux entrées. Deux qui s'appuient sur, effectivement, le changement climatique aujourd'hui et futur et à venir. Et aussi d'autres sur des choses qui montrent comme quoi, en fait, ce qui est toujours ce qui est annoncé dans les... Si on prend ce qui est raconté par les gens qui veulent absolument construire les bassines, les annulent. Par ailleurs, bah, effectivement, les associations qui ont porté plainte ont quand même rappelé que ça concernait 149 pour le deuxième projet, 149 adhérents de la coopérative de l'eau, sachant qu'il y a 2000 agriculteurs et agricultrices sur le département. Donc on le rappellera jamais assez, les méga bassines, c'est pas parce que l'agriculture ça marche pas sans eau et qu'on a besoin d'eau pour pouvoir avoir à bouffer, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent absolument irriguer à gogo et qui sont fortement aidés par un très très gros syndicat agricole, n'est-ce pas, et que mais du coup il y a aussi moyen de faire autrement et arrêter de tout niquer pour seulement quelques-uns et quelques-unes. Voilà, du coup, au-delà des décisions, et c'est quand même déjà cool qu'il y ait passé méga bassines, c'est difficile d'envisager que ce jugement n'ait pas aussi été poussé par les différentes mobilisations, par l'obligation de médiatisation en fait, de l'existence de ces trucs-là qui auraient pu passer complètement inaperçus. Et que, bon, bah, même si il y a pu avoir des carnages et des moments plus que pas rigolos, par ailleurs, il y a aussi de temps en temps des petites victoires, et qu'en tout cas, ça peut entraîner des petites victoires, et ça, c'est quand même vraiment pas mal.
Absolument, et 250 km à peu près au nord de Poitiers, il y a Rennes. Et à Rennes, il y a une tôle, et les tôles, c'est aussi des endroits où c'est assez insupportable de vivre dès qu'il fait chaud, et c'est assez insupportable de vivre même quand il fait pas chaud. Il faudrait s'en débarrasser des tôles, mais en attendant, elles existent toujours. Eh bien, ce qui s'est passé notamment à Rennes cet été, donc du 13 juillet jusqu'à fin août, pendant un mois et demi, c'est que les femmes détenues à la prison de Rennes n'ont pas pu boire l'eau du robinet de leur cellule. En fait, l'accès au point d'eau contaminé a été resté. Des bouteilles d'eau ont été distribuées en remplacement. Donc c'était seulement la consommation qui était interdite. Hein. Les détenus pouvaient avoir accès aux douches, dans la limite du nombre de douches qu'on peut prendre en tôle, c'est-à-dire pas beaucoup. Et puis il y avait quand même un doute aussi sur la question de la potabilité. Il y a des tests qui ont été effectués régulièrement. Et évidemment, le problème a été réglé au bout de un mois et demi, ce qui est quand même extrêmement long, avec des séries de tests du ministère de la Justice qui a rendu possible de nouveau la consommation de l'eau dans cette tôle qui date quand même de 1878. Le truc, c'est que le problème n'est pas nouveau. En fait, en novembre dernier, donc en novembre 2022, l'eau était déjà devenue impropre à la consommation suite à un problème de canalisation dans cette prison. Et cette fois, l'eau était intégralement coupée, c'est-à-dire les personnes détenues n'avaient pas accès aux douches non plus. Donc c'était non seulement la consommation d'eau, mais aussi toutes les nécessités sanitaires, c'est-à-dire pas seulement les douches. Là aussi, il avait fallu plus d'un mois et demi à l'administration pénitentiaire pour régler le problème. Et cette situation concernait à l'époque à la fois le bâtiment des femmes et le quartier des détenus hommes en semi-liberté. Ces détenus hommes du quartier de semi-liberté, ils avaient rédigé des communiqués pour dénoncer le manque d'informations. Et on peut notamment en trouver trace sur la revue, une excellente revue anticarcérale, L'Envolée, qui dit, enfin qui cite, leur communiqué, par rapport à cette coupure, on ne nous dit pas grand-chose, la SPIP, donc l'administration pénitentiaire, n'en sait rien, les surveillants ne disent rien, on nous a quand même parlé d'une bactérie. Lundi, un détenu est allé à l'hôpital, il avait utilisé l'eau, il est revenu depuis, nous aimerions bien savoir quelle bactérie il y a dans cette eau. Il s'était aussi inquiété de la situation des femmes, qui, elles, ne peuvent pas sortir en journée, contrairement à eux qui sont en semi-liberté, donc ils pouvaient potentiellement avoir accès à de l'eau saine, et à de l'eau vraiment, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Ils avaient également alerté sur les conséquences de la coupure, en racontant « il n'y a plus de douche, on nous donne 2 bouteilles d'eau par jour, une pour boire et une pour la toilette », donc notez que c'est extrêmement faible quand même comme quantité, notamment pour boire, mais aussi pour se laver, et à nous de gérer notre consommation ensuite, et donc ils disaient « on ne peut pas plus tirer la chasse d'eau ni faire notre vaisselle », donc on imagine les conditions sanitaire. Alors, aucune information sur le type de bactérie qui est relevée n'a été communiquée sur la coupure de cet été, celle qui s'est déroulée dans le bâtiment des femmes, là, en juillet-août. Par contre, selon Ouest-France, en novembre dernier, c'est la légionelle qui avait été détectée dans les circuits d'eau chaude, et la légionelle, c'est une vraie saloperie, puisque contrairement à la plupart des bactéries, en fait, la légionelle, elle peut se multiplier dans l'eau jusqu'à 45 degrés, donc en fait, dans l'eau chaude, et même survivre jusqu'à 66 degrés, c'est-à-dire, en gros, dans votre ballon d'eau chaude, qui est en général réglé à 60. Elle peut être responsable de la légionellose, qui est une grave infection respiratoire qui est due à l'inhalation donc d'un aérosol d'eau contaminée ou par micro-gouttelettes. Donc en fait, ça se transmet à peu près comme le Covid, si vous voulez, l'aérosolisation et les micro-gouttelettes. Ce qui concrètement signifie que s'il y a la légionelle et si notamment il y en avait cet été, le problème c'est pas seulement de la boire, c'est par exemple quand vous prenez votre doute, en fait vous êtes inondé de légionelle. Et ça c'est particulièrement dangereux, donc à un moment... Encore un problème d'eau à la fois tragique et problématique, et encore une justification pour dire que les prisons, il faut finir avec ça.
Et puis par ailleurs, je crois que c'est 50 litres d'eau qui sont consommés en moyenne en France par une personne. Quoi. Du coup, quand on file 2 litres d'eau
par jour.
Des gens. Oui. Par jour, évidemment. Quand on leur file 2 litres d'eau pour boire en pleine canicule, se laver, faire la vaisselle, etc., on n'est même pas à 10% de ce qu'il faudra.
Et de l'eau, il y en a plein la Seine. Ah oui, pardon. Non, mais c'est oui, on s'en fout. En plus, l'information que vous avez eue.
C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère. Qui attaque l'univers total des hommes.
Il y a quelque chose de dangereux dans les réquisitions. C'est des petits raccourcis, ça paraît tellement évident. Mais c'est pas une réponse structurelle. Donc, je suis pas extrêmement favorable.
On n'a jamais vu la réquisition être la réponse à la question du manque de logement. Vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les bâtiments publics qui pourront être réquisitionnés.
C'est pas en cachant la misère sous le tapis que c'est ça.
Écoutez, moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures.
Et alors, figurez-vous pas que, il va y avoir mercredi. Mercredi prochain, le 17 octobre, mais le 17 octobre, il va y avoir encore un rassemblement contre l'expulsion du squat Pyramide, mais de l'autre côté,
Rhin.
Du Rhin, voilà, en Allemagne. Des gens se battent contre l'expulsion des squats. Alors attention, c'est que nous, on fait des rassemblements devant l'hôtel de ville. À Leipzig, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un centre social qui a été expulsé mardi 27 septembre dans le centre-ville. C'est un espèce de centre social autogéré. Et du coup, il y a eu, à partir du moment où le squat a été expulsé, déjà une manifestation spontanée, j'imagine, pas complètement spontanée, on dit spontanée, peut-être pas exagéré non plus, une manifestation en tout cas organisée pour manifester sa colère et sa déception face à l'expulsion de centre social qui, certes, apportait des choses au quartier, et puis aussi luttait contre la gentrification et la grave pénurie de logements dans la ville. La même soirée, un groupe ouvre une maison dans un autre endroit de Leipzig. Les flics arrivent pour l'expulser, ils l'expulsent, et donc la semaine d'après, ils rouvrent une autre maison dans la même rue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des barricades en feu dans tout le quartier, et la police est tenue à l'écart pendant plusieurs heures. Il y a des antennes de flics qui arrivent, des hélicoptères qui dégagent les barricades et compagnie. Mais c'est un tel bordel que du coup, ils n'ont pas réussi à expulser encore en une semaine ce squat. Du coup, voilà. Peut-être faut pas s'énerver non plus, mais voilà, si jamais on se dit, bah ça peut marcher comme ça, quoi. Voilà. Ce qui se passe aussi, c'est la même chose au Paraguay. Donc voilà, peut-être à l'international, ils sont un peu en colère quand on expulse les squats. C'était mercredi, ça. Du coup, il y a deux habitations squattées, donc au Paraguay, dans le quartier populaire Che La Arena de la Ciudad del Estet. Et du coup, il y a eu deux. Je pense que j'imagine que c'est une espèce de grande. J'en sais rien du tout, mais j'imagine que c'est une espèce de grand quartier avec plein de maisons un peu abandonnées, un peu squattées, un peu voilà, espèce de bidonville, un peu voilà. On imagine à peu près ça. Au Paraguay, il y a deux maisons qui ont été squattées, qui ont été expulsées. Là, il y a eu une espèce d'embrasement du quartier, complètement ouf, qui a repoussé tous les flics. Et pareil, des barricades enflammées. Nan, nan. Donc, par contre, c'est le Paraguay. Du coup, là, la police tire à balles réelles. Du coup, il y a une dame qui est morte de 43 ans et plusieurs personnes qui ont été blessées par à la fois des flashballs et des armes à feu. 5 personnes ont été arrêtées et 5 policiers, selon les trucs, auraient été blessés. Il y a eu une flic, voilà, il y a des attaques de flics à cheval où ils arrivent à cheval, ils tirent, enfin bon, ça n'a pas l'air rien non plus. Mais ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a eu, bah voilà, hier soir encore, le quartier était encore tenu par les habitants et les habitantes, et ils sont allés éclater à coups d'œufs, de pétards, d'huile de vidange et de cocktails Molotov le bureau du maire, du l'adjoint au maire responsable des mandats d'expulsion. Donc voilà, si c'est pour donner des idées, n'exagérons rien quand même, calmons-nous. Mais voilà.
Là, tu vas surtout donner des idées à la police.
Voilà, ne nous énervons pas. Mais voilà, il y a des résistances possibles face à l'expulsion de squat. On peut envisager ça, résister en tout cas.
Vais revoir un rouminet.
Et alors, bah oui, c'est vrai que finalement, quand on résiste, il y a parfois des mouvements de foule. Et qu'est-ce qu'on n'a pas appris ? Eh ben, c'est que, bon, enfin, on le savait déjà un peu, l'humain, c'est l'animal nul. On est quand même particulièrement con et on est en train de s'aborder notre planète. Mais
celle des autres.
Mais les poissons sont moins cons que nous. Par exemple, ils sont vachement plus capables d'attendre et de faire la queue et de s'organiser collectivement dans des mouvements de foule. Du coup, il y a des tas de gens qui s'amusaient déjà à étudier comment ça se passe quand on fait une évacuation. Et le bail du « je sauve mon cul pour moi tout seul, comme ça je cours et nique les autres », c'est quand même assez répandu dans l'humanité. Par ailleurs, c'est profondément inefficace, sauf s'il n'y a qu'une seule personne qui le fait dans ce truc où moi je sauve mon cul et nique les autres. Voilà. Du coup, en fait, le plus efficace, c'est de faire comme les poissons, qui, sans être complètement pépères en cas de danger, en fait, ils y vont et ils s'organisent collectivement, et du coup, ils y vont plus doucement chacun, chacune. Par contre, ils sortent toutes et tous beaucoup, beaucoup plus vite. D'où peut-être aussi ce que vous entendez et ce qu'il faut faire, évidemment, dans les manifs. Ne courez pas. Et ben voilà, ça évite des mouvements de foule. Et en fait, les mouvements de foule où tout le monde commence à courir et à brasser de l'air un peu à droite, à gauche et surtout n'importe où, c'est infiniment moins efficace que ce que font nos amis poissons qui se promènent, eux, en banc dans un océan géant et avec des bancs de plusieurs milliers, peut-être même millions, je n'en sais rien, d'individus. Et ils font ça sans jamais, jamais, jamais se rentrer dedans. Du coup, alors ils ne se rentrent pas dedans parce qu'ils ne se touchent pas. Vous avez le droit de garder vos potes en manif sous la main. Mais en tout cas, les poissons, c'est quand même toujours moins con que nous.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda.
Alors il y a un gros agenda cette semaine et du coup ça commence samedi, il y a un débat à la griffe avec Nebjib Sidi Moussa autour du livre Le Remplaçant, dont je ne serai pas capable de vous faire la promo, mais en tout cas c'est de 15h à 18h à la librairie La Griffe. Si le soir vous avez envie de passer un moment qui a l'air fort intéressant, il y a La Trance a un incroyable talent, un drag show de soutien, le 7 à l'île Égalité, du coup inspiré, apparemment il y a un show télé de concours de drag queen, et du coup c'est inspiré de ça, voilà. Dimanche, eh ben, vous n'aurez pas grand chose à faire et peut-être vous aurez des enfants, que ce soit les vôtres ou pas, et vous pourrez aller acheter des petits gâteaux à la vente de gâteaux de Jamais Sans Toi à l'école Charial à Lyon 3, là, qui est rue Gabillot, si je ne m'abuse. Et puis lundi, comme vous avez encore faim, vous irez au goûter solidaire de Jamais Sans Toi à l'école Berthelot. Ça, c'est à 16h30. J'ai pas dit la vente de gâteaux, c'est à 10h. Il y a une causerie avec Itsuo Tsuda, qui est un auteur anarchiste japonais, à la, au clameur évidemment de 19h à 21h le lundi 9 toujours. La reprise de la chorale militante, mais là c'est à 19h30 et c'est à la Lutine ou à l'atelier des Canulars. Je ne sais pas comment vous pouvez avoir l'info, mais vous la trouverez sans nul doute.
C'est à l'atelier.
C'est à l'atelier.
C'est 91 rue Montesquieu.
Voilà. Parce qu'apparemment c'est une fois sur deux, ça change, c'est ça?
Ah bon,
c'est... Alors, en tout cas, il y a marqué à la Lutine ou à l'atelier, mais, mais en tout cas, allez donc à l'atelier, et si c'est pas l'atelier, finalement, c'est que c'est à la Lutine, c'est, vous allez réussir à faire le trajet. Et une soirée Lyon Info Migration à l'Amicale du Futur à 18h30. Mercredi, une rencontre avec Chorwa Makaremi à la Griffe à 19h. Et c'est jusqu'à 22h. Et si jamais vous faites une petite pause, à 20h, il y a Zonzon d'une émission de dédicace pour les prisonniers et prisonnières. Ça, c'est à Valence. Jeudi, il y a les heures félines du Chat Perché avec l'autoréparation de vélo en mixité choisie de 18h à 20h30. C'est à l'atelier du Chat Perché. Et bah, comme vous ne serez pas loin du tout, vous pourrez ensuite aller à la soirée de soutien aux luttes à la frontière et au Prado à Briançon, puisque c'est aussi jeudi, c'est 19h à 22h. Et si je me rappelle bien, il y aura des frites. Et ça, c'est bien.
Mais c'est où?
C'est, ah pardon, c'est à l'annexe de l'ECG, je ne l'avais pas dit.
Tu as dit c'est à côté, mais du coup tu as dit c'est à Briançon, je me suis dit oui. Briançon...
Chat Perché, ouais, mais une fois que tu as un vélo tout bien réparé, ça va tout seul.
Finalement, oui, on peut dire que le Chat Perché est au sud-est de Lyon, et donc finalement, de la rue Salomon-Rénac, du Chat Perché, on va à l'Amicale du Futur.
Non, on va à l'annexe de l'ECG, à la rue Salomon-Rénac, c'est vraiment
oui,
à côté.
C'est des
quoi.
Voisins, c'est comme la griffe et le... Enfin, n'importe quoi. Bon, écoutez, je suis fatigué.
Bref, au pire les adresses, vous les trouverez, mais c'est à côté. Et donc ce sera vendredi 13, vous aurez un grand entretien entre Michel Zaccarini-Fournel et Lucine Runeau. Alors ça, c'est dans le cadre des 50 ans du MLAC, c'est organisé par le Planning 69, et ça se tiendra à 15h à l'ENS de Lyon dans la salle commune du restaurant Descartes au Crous. Certainement les universitaires, ça vous sait.
Alors, c'est un peu fort à la mot, hein, parce qu'il y a des codes de partout, mais peut-être qu'ils ouvriront tranquille.
Bon, on imagine comme il y a un événement ouvert au public. Il y a la soirée d'ouverture et festival et théâtre, ceci n'est pas un cintre, par le collectif de l'âtre, ça aussi c'est à, donc ça c'est à 19h à la maison des passages et c'est dans le cadre des 50 ans du MLAC. Et le car-hockey, moi j'ai vraiment kiffé le jeu de mots, de soutien volume 2, et bah du coup devinez quoi, c'est pour soutenir l'auto-école autogérée, et c'est quoi, c'est un karaoké, et ça se passera donc vendredi 13 à 19h à l'atelier des Canulars.
Et attendez,
ah oui.
Parce que vendredi 13, on sait qu'il y a aussi la manif, bien entendu, qui partira.
Oui, il y a une journée de grève.
Oui, voilà, exactement, la journée de grève intersyndicale qui, selon les dernières informations, devrait partir à 11h de Bellecour, mais bon, ça reste sujet à confirmation. Mais par contre, il y a une personne qui est venue dans les studios de Radio Canu directement. Alors n'hésitez pas à faire ça, si vous avez des petits rendez-vous, vous pouvez venir à Canu, il y a toujours des gens, tac, vous toquez. Et s'il n'y a personne, bah, vous mettez un petit mot sur la porte. Donc là, il y a une personne qui est venue et qui nous a dit que le 14 et 15 octobre, soit le week-end prochain, il y aurait, le week-end prochain, les 150 ans du Cercle Saint-Irénée à Saint-Just, qui s'appelle Week-end de ma boule. J'avais un jeu de mots, je pense, avec boule comme la boule de pétanque. Et ça se passe au 32 rue des Anges, donc à Saint-Just. C'est les 150 ans de ce cercle de libres penseurs qui donc aurait traversé la commune, mais aussi les deux guerres mondiales. C'est de la libre expression, les ondes naturelles, voilà. Et donc, de ce que je comprends, moi, c'est un centre social où il y a des jeux de boules et des activités pour les enfants, voilà, qui se passe là-bas. Et du coup, ça sera le 150 ans du Cercle Saint-Irénée. Je vous invite, il y avait une belle affiche, donc je vous invite à aller voir l'affiche. À mon avis, vous pouvez trouver toutes les informations sur internet.
Canu Info du vendredi. Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Et sur la plus brillante des radios, tout de suite, ce que veut dire ACAP, d'après les multiples auditeurs et auditrices qui nous ont appelés, c'est adopte le chiffrement de tes données et annule des bassines.
Et ben voilà, le Canu Info, c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et puis à 19h, vous aurez tous les soirs de la semaine les autres Canu Info. Et là, je crois que c'est de la musique lounge et chill qui va être diffusée sur Radio Canu tout de suite.
De avec la house, c'est ça, non?
De la chill house.
On dit house, je crois. Ouais.
Deep house.
Ouais, mais nous, on n'est pas spécialistes. On vous parlera mieux dans l'émission suivante. En tout cas, installez-vous dans le canapé. Et à bientôt, à la semaine prochaine.
Ciao,
ciao.